Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression afin de vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout à vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on parle de la nature et pourquoi elle nous soigne et nous rend plus heureux. Pour déconnecter et nous ressourcer d'une vie sur les chapeaux de roue, rien de mieux qu'une immersion en pleine forêt pour y prendre un bain. Dans son dernier livre « Natura » aux éditions « Les liens qui libèrent », l'autrice Pascale Derme fait le récit de travaux du monde entier dans des disciplines aussi variées que la médecine, la biologie et les neurosciences. Leurs résultats concordent pour affirmer que la nature a un effet de rééquilibrage sur notre santé. Comment la nature nous renforce? Pourquoi la nature nous soigne? C'est maintenant et c'est sur Blooming You. Bonjour Pascale Derme.
Bonjour.
Alors Pascale, vous êtes journaliste et réalisatrice du documentaire Natura, spécialisée dans les sujets de nature et d'écologie depuis une vingtaine d'années. Vous avez travaillé aux côtés de la Fondation Nicolas Hulot, de Yann Arthus-Bertrand et donc de Ushuaïa TV. Vous êtes l'autrice de Vivre ensemble autrement, préfacée par Pierre Rabhi, Ils l'ont fait et ça marche, ou Comment l'écologie change déjà la France, de Sœur écologie et du livre qui nous réunit aujourd'hui, Natura, Pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux, paru aux éditions Les liens qui libèrent. Pascale, intuitivement, on sait qu'une balade en forêt fait du bien, et votre livre vient appuyer scientifiquement cette intuition avec des preuves pour dire qu'une immersion, même brève, dans des environnements naturels a un impact positif sur tous les critères de santé. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, Pascale, c'est comment la nature nous soigne-t-elle ?
La question, c'est comment ou pourquoi ? Parce que justement, figurez-vous que j'ai hésité en fait en sous-titre entre comment la nature nous soigne et nous rend plus heureux et pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux. Et finalement, j'ai choisi pourquoi.
D'accord.
Alors, pourquoi, c'est alors ? Parce que la... Alors, simplement, le comment en fait fait allusion beaucoup à des démarches qui sont déjà connues de naturopathie, de médecine alternative. On utilise la nature pour avec des molécules qui traitent des sucres, des minéraux. Ça c'est connu depuis l'éternité. Enfin, la 90% des médicaments sont issus de plantes. La naturopathie est très active sur toutes ces connaissances et la médecine aussi d'ailleurs. Donc ça c'est connu. Dans mon livre, je suis plutôt sur autre chose. Je suis plutôt sur pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux, dans la mesure où je considère l'expérience de la nature et non pas seulement les molécules qui la composent ou les plantes qui la composent isolées, rebidouillées par la chimie. Moi, ce qui m'intéresse dans cette enquête finalement que j'ai faite, c'est comment le fait d'aller marcher dans la nature, comment le fait d'aller courir dans la nature, comment le fait de profiter de la nature avec tous nos sens peut justement anticiper des maladies, nous renforcer, nous aider à lutter contre le stress, renforcer notre immunité naturelle, avec des chiffres tout à fait incroyables que j'ai trouvés, des enquêtes dans le monde entier là-dessus, nous aider contre la dépression, à lutter contre l'hyperactivité des enfants et la déconnexion des enfants et leur mal-être, peut nous aider à éviter les troubles anxieux qui sont en augmentation de 40% dans les villes. Voilà, donc c'est pourquoi la nature, le fait d'aller marcher dans la nature ou parfois même simplement de la voir, de la regarder, nous aide dans tous ces domaines-là qui sont des domaines de priorité dans nos sociétés finalement. Coupées de la nature, stress, dépression, hyperactivité des enfants, c'est des maladies qu'on appelle les maladies de civilisation. Et c'est ces maladies-là qui sont responsables d'une grande partie des mortalités, diabète, AVC, évidemment, au cœur de tous ces processus, le stress. Or, dans le domaine du stress, on va en reparler, mais la nature est un puissant agent préventif, et même palliatif d'ailleurs, peut aider même quand le stress est bien installé.
Alors, comment, effectivement, dans nos civilisations, à la fois sédentarisée, très urbaine. Comment on fait pour renouer avec la nature? Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre sa voiture et aller à la campagne chaque week-end? Il y a une fréquence? Est-ce qu'il y a une posologie, une bonne pratique à introduire dans sa vie pour pouvoir vivre mieux et en santé?
Alors,
et heureux?
Tout dépend, bien sûr, de l'endroit où vous habitez. Il y a tout un tas de gens, figurez-vous, qui habitent à côté de la nature ou qui habitent à côté de la forêt ou qui habitent à côté de parcs et qui n'ont même plus l'idée d'y aller. Donc, c'est pas la peine d'aller dans des natures lointaines. Nous, dans le livre, on parle vraiment de la nature de proximité. Quelques arbres dans un parc avec un banc ou même sans banc, vous vous posez là, vous respirez calmement, vous vous coupez de cette routine. Vous regardez les oiseaux, vous faites corps avec vos sens, vous retrouvez ce plaisir finalement de sentir, de se poser. La question du temps est primordiale en effet. Peut suffire à observer ces effets, notamment dans le domaine du stress et de la dépression. Ce qui est intéressant de constater dans ces études, c'est que le fait de marcher calmement, en respirant, a plus d'effet que de se poser simplement. Donc la marche calme, lente bien sûr, et bien sûr pas le nez fixé sur le téléphone, le fait de marcher lentement dans la nature en respirant, c'est le principe du bain de forêt japonais, a beaucoup d'effets, diminue votre pouls, régule votre fréquence cardiaque, réduit l'activité stressée dans votre cerveau, le cortex, améliore tous les paramètres physiquement de votre corps. Donc c'est physique, ça a été prouvé par ces études, ça je l'ai découvert aussi dans le cadre de ce livre et de mon documentaire. Et donc cette intuition que nous avons que la nature nous fait du bien, elle est corroborée par cette étude scientifique et en particulier par celle des Japonais qui prouve qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tous vos paramètres physiques sont améliorés. Il suffit de marcher tranquillement et de respirer dans la forêt. Bien sûr, il faut qu'il y ait quelques arbres. On ne parle pas des champs de la Beauce pleins de produits chimiques. Donc surtout, prenez pas votre voiture pour aller dans des noix. Non, quelques arbres, quelques résineux surtout, parce que les résineux émettent beaucoup plus de substances aromatiques qui sont bonnes pour cette immunité naturelle, mais aussi des feuillus comme les hêtres, comme les chênes. Et les pins font du. Vous les inhalez par aromathérapie et ça vous régénère.
Quelle fréquence, quelle dose, comment on fait, comment vous faites d'ailleurs? Parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous avez dû introduire dans votre lifestyle.
Non, mais c'est pas que j'ai introduit dans ma lifestyle la nature, c'est parce que j'étais proche de la nature que j'ai fait ce travail depuis 7 ans.
D'accord.
Ça va faire 10 ans maintenant que j'étudie cette question. Je suis partie de mon expérience à moi, mais effectivement cette question de la dose et de la posologie, elle est très importante et elle est posée par les scientifiques qui étudient cette question. Est-ce qu'il faut 5 minutes? Est-ce qu'il faut 10 minutes? Les Japonais, donc à l'origine des bains de forêt, ils considèrent qu'il faut marcher 30 à 40 minutes pour ressentir les bienfaits d'un bain de forêt. Marcher, pas en courant encore une fois, marcher lentement. Les Américains qui ont étudié le pouvoir de la nature contre la dépression et les pensées ruminatoires qui reviennent en boucle, vous savez, les pensées « je suis nulle, j'aurais pas dû faire ça », ça vous projette en fait dans le passé, tout ce que vous avez mal fait, ça vous vient et ça tourne en boucle et vous n'arrivez pas à vous en séparer. C'est ce qu'on appelle les pensées ruminatoires et c'est à la longue. Si vous n'arrivez vraiment pas à vous en débarrasser, ça amène à des états totalement dépressifs parce que vous êtes submergé par ces idées. Et bien dans ce cadre-là, le fait d'aller marcher dans la nature dissout ces pensées et agit sur une zone du cerveau qui les fabrique, enfin qui les crée. Donc, à contrario, le fait d'aller marcher, ça calme cette zone et ça aide à lutter contre la dépression. Ça, c'est un résultat qui est très scientifique. Ils ont comparé des groupes. Certains étaient envoyés marcher dans la nature, d'autres étaient envoyés marcher dans la ville. Ils ont comparé des IRM, le cerveau. Ils ont comparé des questionnaires sur l'auto-évaluation de qu'est-ce que je pense de ma santé, comment je me sens. Ils ont comparé aussi des paramètres physiques, de stress, de cortisol, de pouls. Et donc, ces résultats concordent. Ceux qui marchent dans la ville n'ont pas, enfin, les pensées ruminatoires ne disparaissent pas et continuent à être dépressifs, alors que ceux qui sont régulièrement invités à marcher dans la nature, pas une forêt, hein, avec quelques arbres, mais une campagne, pendant 30 à 40 minutes par jour, ça dissout les pensées et à terme, ça les enlève complètement. Il y a d'autres recherches, par contre, qui montrent que les micro-pauses, et là pour les infirmières ou pour les gens qui travaillent dans des milieux où ils sont stressés, où ils n'ont pas le temps d'aller marcher même une demi-heure, le fait d'aller s'asseoir dans un parc, ils ont comparé des pauses d'infirmières, de nurses. Certaines allaient faire leur pause dans un petit jardin en bas de l'hôpital et d'autres allaient faire leur pause dans une salle hyper confortable, tout équipée au sein de l'hôpital. Et les résultats n'étaient pas les mêmes, encore une fois. Les infirmières qui se sont fait leur pause dans la salle, même si la salle était très confort et qu'elles avaient tout ce qu'il fallait pour manger, elles n'ont pas échappé au burn-out et dépression, etc., qui touchent cette population médicale. Celles qui allaient dans le jardin, à qui on a demandé d'y aller, parce que c'était une enquête, d'aller dans le jardin, eh bien, elles ont été beaucoup plus résistantes au stress, beaucoup plus résistantes au burn-out que les autres. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir... Et ça, c'était des micro-pauses. On parle d'un quart d'heure, 20 minutes de pause. Voilà, en deçà d'un quart d'heure, 20 minutes, il y a aussi des études qui montrent qu'il y a une petite pilule verte. Voilà, 5 minutes, ça permettrait de... Bon, personnellement, j'y crois moins. Je pense que c'est commercial, ça. On commence à faire de la pilule magique verte, c'est que c'est du blabla, en fait, c'est du bullshit. Mais à partir de 20 et idéalement 30-40 par jour, ça permet d'avoir des sérieux effets antidépressifs, encore une fois, anti-burnout. Et il faut savoir que les troubles anxieux augmentent de 40% dans les villes en ce moment, dans le monde entier. Donc le fait d'avoir... Et on sait pourquoi. On sait que c'est parce que l'amygdale, le centre de la peur, est hyper stimulé en ville. Et ça, c'est un neuroscientifique du livre qui me l'explique, et je le montre aussi dans le film. Le fait d'avoir grandi dans la nature, contrairement au fait d'avoir grandi en ville, active différemment l'amygdale, qui est encore une fois votre centre de réflexe de peur. Donc soit c'est fight or flight, soit vous vous battez, soit vous partez, vous fuyez. Mais quand vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre, face au stress urbain, vous n'allez pas casser la figure à tous les gens qui vous embêtent, ni partir en courant dès que vous avez un problème, vous ne pouvez ni activer ni l'un ni l'autre, ni vous battre, ni partir. Et donc à force, ça s'accumule, et ça c'est l'amygdale qui le ressent, et elle s'hyperactive. Et ça vous rend malade, de stress, ça érode vos nerfs, etc. Et donc, cette étude du neuroscientifique allemand Meyer Lindenberg montre que les gens qui sont nés à la campagne, leur amygdale s'active moins vite et surtout se calme plus vite en cas de stress, alors que les gens en ville qui sont surstimulés, ça les rend... ils pètent les plombs très rapidement et ils se calment beaucoup, beaucoup plus lentement parce que, justement, leur système de... qui absorbe le stress est totalement érodé. Donc la nature est préventive aussi, elle évite en fait de devenir zinzin. Et en tout cas, les gens qui ont eu la chance de grandir dans un environnement vert, quand ils y retournent régulièrement, ils peuvent se restaurer et se régénérer. Et voilà, à la force, se régénérer. Et après, ils peuvent repartir en ville. Mais en tout cas, ils ont eu la possibilité de se régénérer. Et cette notion-là, elle est importante aussi. Parce que on n'a pas la possibilité d'aller tout le temps dans la nature, mais il faut qu'on comprenne que le fait de pouvoir aller de temps en temps, alors il n'y a pas de rythme, on est encore sur cette question du temps, le fait de pouvoir aller, on va dire, une fois par semaine, en tout cas pour les Japonais, c'est 3 jours et 2 nuits, alors en tout cas pour les Japonais, c'est le bain de forêt, c'est 3 jours et 2 nuits, une fois par mois. Et là, ça augmente votre immunité tellement fort qu'en fait, ça vous protège, ça augmente ce qu'ils appellent les natural killers, qui sont les cellules qui vous aident à lutter contre certains cancers, ça les augmente de 56%. C'est pas rien du tout. Ouais. Et ce taux-là, il reste 30 jours. Donc au bout de 30 jours, ils vous invitent à refaire un séjour en forêt, de marcher, de loger dans une cabane forestière, et hop, comme ça, et voilà. Et ils ont vérifié que la longévité des personnes, ils ont vérifié ça au Japon, la longévité des personnes qui habitent près des forêts et qui vont régulièrement dans les forêts est meilleure. Les gens vivent mieux et plus longtemps. Et il y a d'autres études dans le monde entier qui montrent que les gens qui habitent à proximité des parcs et des forêts et qui y vont régulièrement, parce que ce n'est pas toujours le cas encore une fois, ce n'est pas parce qu'on habite à côté d'un parc qu'on a toujours l'habitude d'y aller, parce qu'on oublie ce rapport à la nature, parce qu'on ne sait pas tous ces bienfaits qu'on est en train de discuter ensemble. Si on les savait, quand les gens le sauront, ce que ça fait à leur santé physique, psychologique, émotionnelle, moi on espère tous que ça va inciter les gens à aller beaucoup plus dans la nature. Et c'est pas un luxe, c'est juste encore une fois 3 arbres, un jardin, un parc. Dans les hôpitaux, c'est important aussi.
Alors vous disiez tout à l'heure que le contact avec la nature faisait du bien au personnel hospitalier, notamment les infirmières. Quid des patients ? Y a-t-il des expériences qui ont été faites en ce sens ?
Ça, c'est une étude incroyable, qui est ancienne. Hein. C'est une étude de 1984, que j'ai non pas exhumée, mais qu'en tout cas que j'ai découvert et qui m'a stupéfiée. Donc, on a été filmé, ce monsieur qui a maintenant 85 ans. Et dans le livre, je raconte cette étude, qui est celle de Roger Ulrich, qui est parue dans Science en 1984, consistait à prouver que les malades qui étaient hospitalisés en post-opératoire et dont la chambre donnait sur un arbre, sur un parc, guérissaient plus vite et avec moins d'antidouleurs que ceux qui avaient une chambre qui donnait sur un mur de briques. Et guérissaient plus vite, ils sont sortis un jour, voire plus, de l'hôpital plus tôt de l'hôpital, ouais. Et ils ont eu simplement des antidouleurs, des petites pilules et non pas des injections de morphine. Donc ça, c'est une étude incroyable, parce qu'on a tous autour de nous des gens qui ont été hospitalisés, et spontanément, est-ce que vous ne l'avez pas entendu vous-même, moi je l'ai entendu en tout cas, des amis qui se disaient, mais moi, il fallait avoir des arbres, même en chambre stérile, même dans des cas difficiles. Je voulais avoir la vue sur un arbre, mais ils ne savaient pas pourquoi. Et donc, cette étude, elle montre qu'ils avaient bien raison de suivre leur intuition. Puis, ça se trouve, ça les a aidés à, effectivement, dans l'automédication, la lutte contre le stress opératoire qui est extrêmement puissant dans un hôpital, est plus fort quand on a un jardin. Et ça ne vaut pas seulement pour les malades, ça vaut aussi pour le personnel hospitalier. Et ça vaut pour les familles, bien sûr, alors il y a des études, pareil, dans la logique de Roger Ehlerich, il y a eu des études qui ont... Il a fait des jardins dans les hôpitaux, lui, il milite, ce Roger Ehlerich, pour faire de la nature un auxiliaire de soins dans les lieux de vie. Et pour moi, amener la vie dans les lieux où on guérit la vie, ça me paraît vraiment évident, enfin, de savoir l'auxiliaire des fleurs, de la beauté des fleurs, des couleurs, des arbres. Et donc maintenant, on sait que physiquement, la nature agit vraiment, c'est pas une vue de l'esprit. Donc dans ces lieux, dans ces hôpitaux, ils font des jardins. Ils essaient de faire des jardins d'hôpitaux. Ils ont comparé les hôpitaux où il y avait un jardin aménagé, ou en tout cas il y avait des grandes fenêtres, on pouvait voir la nature. Il y a notamment un hôpital psychiatrique aussi à Metz qui s'est récemment créé avec ce principe-là. Et bien sûr, ils ont comparé les effets sur la famille aussi qui venait visiter les médecins et sur le personnel soignant. Et à chaque fois, ça marche. Le taux de stress, le taux d'absentéisme du personnel médical, le taux de dépression du personnel médical et le bien-être des familles est 10 fois meilleur quand les hôpitaux ont un jardin.
Alors, quid de la nature virtuelle, puisque vous en parlez un peu dans votre livre, effectivement, vous expliquez comment la politique urbaniste de l'urbanisation s'adapte effectivement à ces nouvelles découvertes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus aujourd'hui ?
Alors, il y a virtuel et virtuel, comme je l'explique dans mon livre. Il y a tous les gadgets, c'est-à-dire des faux arômes de nature dans des magasins pour faire vendre. C'est aussi de la nature virtuelle, c'est des arômes, même si ça est chimique. Donc il y a tout un tas de d'arbres en plastique, de nature virtuelle au sens de fausse nature, qui ont été un peu à la mode dans les années 70-80, y compris chez les architectes. Ça a l'air un peu passé, heureusement. Maintenant, il y a la nature virtuelle qui peut être utile. Il y a des écrans de nature, il y a des écrans avec des films et des images de nature. Vous voyez ça aussi pas mal dans le métro. Il y a tout ce qui est poster de nature chez votre dentiste, etc. Parce qu'on sait maintenant que la nature a un pouvoir antidouleur, donc on déclenche des endorphines. On vient de le voir avec Roger Ehlerich. La nature a un pouvoir antidouleur, donc effectivement, tous les lieux où on souffre, les médecins, où on a peur, les dentistes, mettent des posters partout. Donc c'est de la nature virtuelle, et pourquoi pas, ça marche très bien. Après, il y a des choses plus intéressantes qui peuvent effectivement servir. C'est des applications pour reconnaître les plantes, des applications pour reconnaître les arbres. Vous avez entendu parler de ces applications-là. Ça, c'est pas mal pour les jeunes, parce que ça peut leur apprendre à avoir le réflexe. Et même pour nous, d'ailleurs, qui avons perdu les noms des plantes et des essences, parce qu'on n'a plus le savoir de nos grands-parents. Et nos parents, on l'avait déjà plus. Donc, on est coupé de toute une certaine connaissance de la nature. Ça ne veut pas dire pour autant que ça nous fera plus de bien si on connaît le nom des plantes, mais au moins ça nous incitera peut-être à y aller davantage, à être curieux, à développer notre curiosité, à développer notre rapport et notre fréquentation de la nature. Donc ces applications-là, elles existent, elles sont très bien. Maintenant, en termes de santé, il y a eu des études qui ont comparé les effets d'un écran virtuel de nature avec une vraie fenêtre sur la nature. Et ils ont comparé notamment ça pour des étudiants ou des enfants en situation donc d'apprentissage, de mémoire, d'agilité intellectuelle. Et on peut dire que, pour faire simple, la nature virtuelle, donc l'écran de nature, n'a pas le même effet de restauration, d'aide à l'agilité intellectuelle, à la réflexion, que la vraie nature avec une vraie fenêtre sur un arbre. Autrement dit, les étudiants, quand ils font les études, les étudiants qui ont une fenêtre qui donne sur un arbre, ils ont des meilleurs résultats à leurs examens. Les enfants dont l'école a un arbre ou a un jardin ont des résultats scolaires académiques plus élevés que les autres. Donc il y a un vrai effet qui n'est pas non plus du tout le hasard, qui est beaucoup plus fort sur la nature qu'avec la vraie nature que la nature virtuelle.
Mais du coup, alors, par exemple, pour les enfants, parce qu'on parlait de l'école, est-ce qu'il y a une posologie particulière pour les enfants ? Est-ce qu'ils ont plus besoin de nature qu'un adulte ?
Alors, c'est difficile de vous répondre si les enfants ont plus besoin de nature. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont besoin de nature pour jouer, ils ont besoin de nature pour leur agilité physique, ils ont besoin de nature pour leur confiance en eux, ils ont besoin de nature pour se calmer aussi. Alors, on peut dire que dans les écoles forestières qui existent en Europe du Nord, beaucoup, c'est le paradis pour les enfants, parce que il y a plein d'études que je cite dans le bouquin. Ils ont, et ça a été beaucoup étudié, les enfants qui ont la chance d'aller souvent dans la forêt, même pour apprendre dans la forêt, ils apprennent les langues, ils apprennent l'histoire, ils apprennent les plantes et donc à cuisiner, donc ils apprennent toutes les traditions et les sagesses aussi. Je pense à la Suède, mais je pense aussi au Canada, ils apprennent toute l'histoire des peuples premiers là-bas, et en même temps ils apprennent à être ensemble, à travailler en groupe, et ils apprennent aussi tout seul à y aller, à pas avoir peur. Donc ça renforce leur confiance en eux, ça renforce aussi le collectif. Et bien ça, c'est très important pour leur construction identitaire, et ça marche, et c'est vraiment flagrant, ça marche très fort. Alors ici, on peut dire aussi qu'il y a d'autres études qui montrent que vers 10-11 ans, et c'est assez précis, c'est un moment clé pour le contact avec la nature des enfants, et on le sait parce que il y a eu des études qui ont consisté à interroger des activistes Greenpeace ou des associations engagées d'environnement, et ils se sont rendus compte en remontant l'histoire de toutes ces personnes engagées qu'il y avait toujours eu un moment entre 10, 11, 12 déclic où ces jeunes, donc qui étaient devenus des activistes, mais quand ils étaient enfants, avaient eu un jardin, un grand-parent qui les avait amenés dans un jardin, un contact fréquent et régulier avec la nature, et que ça, ça les avait marqués à vie. Donc, il y a une période comme ça, entre, on va dire, 8 et 12, où vraiment c'est important d'emmener les enfants régulièrement, parce que, comme dit joliment la directrice de l'école forestière que j'ai interviewée au Canada, ils auront toujours un endroit où retourner chez eux. Si on les habitue à aller marcher dans la forêt à cet âge-là, tout petits, ils sont spontanément curieux, donc ils vont adorer passer des heures avec les vers de terre, les canards, les grenouilles, les bruits. Ça, il faut encourager, c'est merveilleux. Vous avez juste à leur accorder du temps dans la nature, c'est tout. Et c'est notre rôle de parents, je trouve, que de les préserver de ce stress, des activités multiples. Donc simplement les emmener et les laisser seuls dans un endroit sécurisé, sans avoir la panique de la sécurisation, mais sécurisé et de la vraie nature, pas des structures en plastique, ou en bois, ou du faux gazon. Et juste leur accorder une bulle de temps comme ça, et ça se fera tout seul. Après, autour de 8 à 12 ans, c'est là où la curiosité, où nous, notre rôle, on peut les accompagner, les faire jouer dans la nature, les accompagner dans la forêt, pour développer leurs connaissances et leur amour. Et c'est vrai qu'un grand-parent, là, est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui passent des générations, et si on n'a pas cette chance-là, de le faire nous-mêmes, justement, avec une application ou du temps. Après, c'est plus compliqué à l'adolescence. C'est beaucoup plus compliqué, parce qu'ils ont d'autres centres d'intérêt, beaucoup plus, donc qui préoccupe, et la nature les intéresse moins. Moi j'ai une adolescente, et c'est vrai que, et une pré-adolescente, c'est après 14-15, c'est compliqué, ils ont d'autres centres d'intérêt. Donc c'est là où, par contre, le fait de les envoyer voyager dans d'autres natures, découvrir d'autres cultures, d'autres natures, très important. Aux États-Unis, ils ont une tradition, mais qui ne se fait pas tellement malheureusement ici, c'est ils envoient les jeunes dans des camps de nature. Et il y a des camps en Arizona, dans des déserts, dans des lieux vraiment sauvages où ils font leur cabane, ils font leur feu, etc. Et ça marche très bien, ça les marque à vie, et ça lutte aussi contre les états dépressifs ou le mal-être, il y a une quête personnelle dans la nature qui peut plaire à la tranche adolescente et jeune adulte, et puis nous, bien sûr, tout au long de la vie.
D'accord.
Ah oui, non, juste là-dessus. Sur l'hyperactivité, vous disiez, alors là, il y a des études extrêmement précises qui montrent que, oui, la nature agit et traite l'hyperactivité des enfants. C'est très sérieux, ça a été fait à maintes reprises par des équipes anglaises, canadiennes de mémoire, et américaines. Et ils ont comparé en fait les sessions de jeu d'enfants hyperactifs atteints de syndrome d'hyperactivité avec sur des centaines de familles, en envoyant les uns jouer dans la nature et les autres dans une salle fermée type gymnase. Et là après, ils ont refait les tests de concentration que ces enfants ont tellement de mal à passer puisqu'ils sont hyperactifs, ils n'arrivent pas à se concentrer. Eh bien, dans tous les cas, les enfants qui ont été joués dans la nature ont des syndromes d'hyperactivité réduits de moitié, voire des deux tiers, sans pilule, sans médicaments. Ouais. Et alors que ce n'est pas le cas du tout des enfants qui ont été joués, donc se défouler aussi quand même, mais dans des salles fermées. Leur syndrome de concentration, leur taux de réponse au test reste assez mauvais. Alors que ceux qui ont été joués dans la nature ont des meilleurs scores et leur concentration a été restaurée. Et donc ça veut dire que cette histoire de restauration dont on parlait tout à l'heure, pour dire que quand on avait trouvé, nous, adultes, des lieux où se restaurer, ça peut être un parc à côté de chez vous, bon, il faut quand même qu'il y ait quelques arbres et un peu de silence, cette restauration-là, cette régénération-là, elle est très importante. Et une fois qu'on a trouvé, parce qu'elle permet de rafraîchir sa mémoire, sa concentration, son calme intérieur. Et ça, donc, c'est, on est sur un plan cognitif. On a parlé tout à l'heure des effets physiques de la nature contre le stress, mais il y a aussi des effets contre, sur le plan cognitif de notre cerveau. Le corps et l'esprit étant intimement mêlés dans tous ces processus, c'est très important de le dire, la nature rééquilibre le corps et l'esprit. Quand les gens sont, je dirais, bas dans les paramètres, quand les gens sont, on va dire, fatigués ou quand ils manquent de vitalité, vous les envoyez, les études montrent que vous les envoyez marcher dans la forêt, les paramètres remontent. Quand les gens sont surtendus, hypertendus, stressés, etc., les paramètres du stress baissent. Donc on arrive à cette notion d'équilibre qui est la clé de la santé corps-esprit, enfin physique, psychologique et émotionnelle. Et on ne sépare plus, la nature nous aide à réunir tous ces paramètres. Nos émotions, notre cognitif, ce qu'on sait, comment on utilise notre savoir, notre mémoire, mais aussi notre corps et comment il fonctionne, différent en fonction de chacun. Cette notion d'équilibre, elle est extrêmement importante, je pense, sur un plan concret quotidien, mais aussi militant pour moi, même éthique et philosophique, parce que on comprend à quel point on est lié à la nature et qu'elle nous rééquilibre et que nous, on lui doit en fait aussi cet équilibre-là et qu'on en a besoin pour vivre et elle a besoin qu'on la protège nous aussi de nous. C'est un échange de bons procédés, c'est des liens de réciprocité dans le domaine de la santé. Et voilà, donc en tout cas, pour revenir aux enfants hyperactifs, tous nos enfants ne sont pas hyperactifs, mais pour ceux-là, c'est clair, là, il faut une prescription de nature. Dans certains pays comme l'Écosse, les médecins commencent à prescrire la nature. Les généralistes prescrivent la nature. J'aimerais bien qu'en France, ça soit le cas aussi.
Alors, comment ils prescrivent la nature? C'est alors, comme au Japon, aller vous balader trois jours
Trois jours et demi. Alors, en Écosse, ils prescrivent des cures de nature. C'est les généralistes. Ça, je ne l'ai pas vraiment développé, mais je sais qu'ils prescrivent. Alors, en Écosse, ils prescrivent des cures de nature à des jeunes enfants et à des adultes contre le stress. En Finlande, ils travaillent sur des sentiers thérapeutiques dans la nature. Ils prescrivent des séjours de nature avec des doses précises, là, pour le coup, en fonction des personnes, contre l'alcoolisme, contre la dépression et contre certains troubles anxieux aussi. Et donc, le fait d'aller marcher une heure dans la nature par jour fait partie de leur ordonnance. Ils n'ont pas que de la chimie. Et aux États-Unis, ça commence aussi contre la dépression. Dans le cas de l'hyperactivité des enfants, les résultats des jeux en nature sont tellement forts par rapport aux jeux en salle que ça, c'est, d'après les médecins et d'après les chercheurs, les résultats de la nature sont plus forts que les traitements chimiques contre l'hyperactivité des enfants et ils peuvent s'en passer. Contre la dépression, les résultats et les chercheurs sont formels. Le fait d'aller marcher 40 minutes dans la nature a des effets aussi, voire plus importants que les traitements certains traitements antidépresseurs. Tout dépend de votre cas et de votre stade, mais que dans des états dépressifs début ou légers, le fait d'aller marcher dans la nature a plus d'effets sans chimie et sans effets secondaires que les médicaments. Et là, les chercheurs sont formels. Pour l'immunité, on est avant la maladie. Donc c'est vraiment intéressant de dire que les Japonais ont prouvé sur des centaines et des milliers de personnes que le fait d'aller faire des bains de forêt renforce les natural killers qui protègent votre organisme contre les cancers et certaines pathologies de 52%. Et que ça vous évitera peut-être de prendre de la chimie et d'autres médicaments. Voilà.
Très bien, bien merci Pascal pour toutes ces précieuses informations. Je rappelle le titre de votre livre, alors Natura, pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Quel est votre prochain projet? Je crois comprendre que vous travaillez sur un reportage, un film.
Alors on va faire un long métrage sans doute du documentaire Natura qui a été donc diffusé sur Planète Plus, qu'il est encore cette semaine.
D'accord.
Donc c'est une deuxième salve, mais on va partir en tournée citoyenne avec le film court. On le porte dans des tiers-lieux, dans des hôpitaux, dans des écoles pour faire porter ce message de la nature. Donc ça commence. On a une quinzaine de dates partout en France. On a une page Natura le film où vous pouvez demander ces types de projections. Elles sont souvent gratuites.
D'accord.
On va là partir aux quatre coins de la France. Donc ça, c'est ce qui démarre actuellement. Et on a un projet de faire le long métrage pour les festivals, pour une sortie peut-être en salle, un film plus artistique et plus cinéma. sur ce sujet de nature.
Bon, on mettra tous les liens à disposition des auditeurs et lecteurs de Bluminio. Merci Pascal.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je rappelle le titre du dernier livre de Pascal Derme, Natura, pourquoi la nature nous soigne et nous rend plus heureux. Rendez-vous sur bluminio.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour d'autres découvertes et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.